Et voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. J'ai été faussement accusé et détenu de manière injuste. Voici les premiers mots de Carlos Ghosn en anglais dans le texte. Les premiers mots du patron de Renault depuis son arrestation au Japon il y a un mois et demi. Nous irons à Tokyo dans 2 minutes.
Le gouvernement opte pour une réponse sécuritaire face au casseur. Édouard Philippe hier soir a indiqué qu'une nouvelle loi était en préparation pour réprimer plus fermement les rassemblements non déclarés. Vous l'entendrez.
À suivre aussi la réaction du syndicat national de la magistrature. Il avertit, il se mobilisera contre ce projet de loi du gouvernement, un projet attentatoire aux libertés publiques, dit la présidente du syndicat.
Et dans cette édition encore, nous ferons le point sur les forages entrepris par Total au large de la Guyane. Des associations de protection de l'environnement accusent l'État de ne pas avoir assez concerté les habitants et les écologistes.
Et puis 2 milliardaires britanniques ont-ils réussi ou vont-ils réussir à interdire une pièce de théâtre en France? Ils l'accusent de diffamation, vous comprendrez pourquoi dans ce journal. Mais d'abord, nous avons pu joindre les équipes du bateau humanitaire le Sea-Watch 3, navire d'une ONG allemande qui tourne en rond en mer Méditerranée depuis le 22 décembre, faute de trouver un port où accoster en Europe. À son bord se trouvent 32 migrants, dont 3 enfants, secourus au large de la Libye. Ils viennent d'Égypte, de Côte d'Ivoire, du Niger ou du Mali, et ils sont épuisés après tant de temps passé dans le froid, Maureen Mercier.
17 jours à dériver au large des côtes maltaises, le bateau a essuyé déjà plusieurs tempêtes. Les 32 migrants qui sont passés par l'enfer libyen n'en peuvent plus de cette incertitude. Franck, médecin à bord.
Le niveau de stress reste très haut. Quelques d'entre eux sont de plus en plus désespérés et le temps est vraiment mauvais.
Pour s'abriter, les 32 migrants doivent s'entasser dans un espace de 30 mètres carrés. Hugo, infirmier.
Trois quarts des personnes vraiment très atteintes par le mal de mer. On fait notre mieux pour couper le vent et couper le froid. Mais après ça, il n'y a aucune des conditions nécessaires de base d'hygiène qui sont réunies. Pour des personnes traumatisées, qui peuvent des conditions parfaites pour décompenser, les personnes étaient prêtes à se jeter dans l'eau.
Un migrant est passé à l'acte désespéré. Il a tenté de rejoindre la côte maltaise à la nage. Il a pu être sauvé. Ambroise, sauveteur à bord du Sea-Watch.
C'est quelqu'un qui se jetait à l'eau, un peu comme un cri de désespoir, quoi. Mais ça témoigne un petit peu de l'état d'esprit à bord. C'est totalement effrayant. On ne sait pas ce qui peut se passer, on se sent abandonné.
L'état psychologique des migrants ne cesse de se détériorer. Certains ne parviennent plus à s'alimenter. Pour l'heure, Malte a simplement accepté que le bateau s'abrite proche de ses côtes pour fuir les mauvaises conditions météo.
C'était un reportage de Maureen Mercier. J'ajoute qu'un autre bateau d'une ONG allemande, le CI, est lui aussi bloqué devant les côtes maltaises. Là, 17 migrants sont à bord, soit 49 personnes au total, secourues et à la recherche d'un pied-à-terre. Il était l'un des patrons les plus puissants du monde. Le voilà menotté, amaigri. C'est l'image de la nuit. Carlos Ghosn est apparu pour la première fois depuis son arrestation le 17 novembre dernier au Japon. C'était donc cette nuit, lors d'une audience publique dans la capitale japonaise. Celui qui est encore PDG de Renault est accusé d'avoir dissimulé au fisc une partie de ses revenus issus du groupe Nissan. Nous rejoignons notre envoyé spécial à Tokyo, Isabelle Raymond, bonjour.
Bonjour.
Isabelle, avant d'en venir à la défense de Carlos Ghosn, pouvez-vous nous dresser le tableau de cette rapide audience cette nuit qui s'est tenue dans une atmosphère évidemment particulière ?
Oui, il y avait une foule indescriptible ce matin devant le tribunal de district de Tokyo. Plusieurs centaines de journalistes locaux et internationaux qui espéraient voir arriver le véhicule transportant Carlos Ghosn avant son audition. Des Japonais aussi qui ont fait la queue pour obtenir une place dans la salle d'audience. Plus d'un millier de personnes ont participé à un tirage au sort, 14 élus au total. Nous n'avons pas eu cette chance et donc nous avons suivi l'audience sur le trottoir grâce aux notes envoyées par la poignée de journalistes présents à l'intérieur.
Et cette audience, justement, Isabelle, quelle a été la ligne de défense cette nuit de Carlos Ghosn ?
Alors Carlos Ghosn est apparu menotté, amaigri, pommettes saillantes, tempes grisonnantes, en costume sombre, sans cravate, portant des chaussons en plastique vert. Il a lu un texte en anglais, « Je suis innocent », a-t-il dit d'une voix forte, récusant les accusations portées contre lui. « J'ai consacré 20 ans de ma vie au redressement de Nissan, jour et nuit ». Puis il a tenté de démonter point par point l'accusation, revenant notamment longuement sur les accusations d'abus de biens sociaux, puisque c'est celle qui est considérée comme la plus grave ici. Carlos Ghosn est soupçonné d'avoir utilisé les caisses de Nissan pour rembourser un ami saoudien qui l'avait aidé à compenser des pertes personnelles pendant la crise de 2008. Il réplique que c'est faux et qu'il aurait pu, à ce moment-là, décider de prendre sa retraite pour s'occuper de ses problèmes personnels, mais qu'il a préféré rester à la tête de Nissan pour redresser l'entreprise également secouée par la crise. Alors cette déclaration d'une dizaine de minutes suffira-t-elle à faire vaciller une accusation toute puissante ici? On sait que 99% des accusés sont condamnés par la suite. Cette audience est aussi une occasion unique pour Carlos Ghosn de s'adresser directement à une opinion publique qui, ici au Japon en tout cas, l'a déclaré coupable avant même qu'il ne soit condamné.
Merci Isabelle Raymond avec Arthur Gerbeau pour la transmission technique depuis Tokyo ce matin. Ce matin, par ailleurs, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, demande à ce que la présomption d'innocence de Carlos Ghosn soit respectée. De son côté, Nissan a répondu à son ancien patron. Le groupe automobile détient la preuve, dit-il, la preuve des fautes commises par Carlos Ghosn. Lui a pris la parole devant les Français hier soir sur TF1, sur le plateau du 20h. Le Premier ministre Édouard Philippe s'est dit favorable à l'adoption d'une nouvelle loi pour sanctionner les participants à des manifestations non déclarées. Une réponse du gouvernement aux violences qui émaillent depuis un mois et demi les manifestations des Gilets jaunes. Édouard Philippe.
Je suis très favorable à l'idée que dans une démocratie comme la France, on puisse librement manifester. Il faut préserver la liberté de manifester en France et il faut sanctionner ceux qui veulent enfreindre ce droit à manifester. C'est la raison pour laquelle le gouvernement est favorable à ce que notre loi soit complétée, à ce qu'une loi nouvelle soit adoptée, qui permettra de sanctionner ceux qui ne respectent pas cette obligation de déclaration. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, si on veut à la fois défendre la liberté de manifester, si on veut faire en sorte que ceux qui ne sont pas d'accord avec une mesure puissent le faire pacifiquement, dans la rue, comme c'est leur droit, je crois qu'il faut faire évoluer notre droit et compléter une disposition législative dans notre droit.
Le Premier ministre Édouard Philippe, qui a aussi hier soir laissé entendre que le dispositif de fichier mis en place pour empêcher les hooligans d'assister aux matchs de football, que ce dispositif pourrait être étendu à d'autres manifestations. Des mesures qui pourraient attenter à la liberté publique. Le syndicat de la magistrature prévient déjà. Il est la deuxième organisation représentative, c'est les magistrats. Katia Dubreuil préside ce syndicat. Elle n'a pas du tout été convaincue par les annonces d'Edouard Philippe.
Il semble confondre la liberté d'aller voir un match de foot avec la liberté de manifester, parce qu'il place les deux sur le même plan en disant « ça marche très bien ce qu'on a prévu pour les matchs de foot, alors on va faire la même chose pour les manifestations ». C'est quand même extrêmement problématique, parce que la liberté de manifester, c'est un droit fondamental qui est reconnu par la Constitution. Ça n'a rien à voir avec le fait de pouvoir aller ou non voir un match de football. Donc évidemment que c'est un problème lorsque des textes de ce style sont adoptés, parce que c'est aussi une manière politiquement de pouvoir casser la mobilisation. Qui voudra aller manifester, sachant que à un moment donné, si on est pris dans un endroit, dans des gaz lacrymogènes et qu'on se dissimule le visage, on peut être interpellé et placé en garde à vue. On va effectivement monter au créneau sur ce sujet, très clairement.
Katia Dubreuil, la présidente du syndicat de la magistrature. Autre réaction politique, cette fois aux annonces faites par Édouard Philippe hier. La France insoumise estime que les injonctions au calme sans réponse politique seront sans effet. Il n'y a pas de réponse à l'exaspération des Français, regrette de son côté le parti Les Républicains. La nouvelle loi promise par le Premier ministre pourrait arriver à l'Assemblée nationale pour être discutée dès le mois prochain. Ce samedi, par ailleurs, Édouard Philippe prévoit la mobilisation de 80 000 policiers et gendarmes dans toute la France, comme c'était le cas déjà à la mi-décembre. Frédéric Seyss, dans son billet politique, reviendra sur ce tournant sécuritaire de l'exécutif face aux casseurs. Concernant la réponse politique et sociale maintenant aux Gilets jaunes, la présidente de la commission du débat public dit comprendre que son salaire choque. Chantal Jouanneau est rémunérée près de 14 700 euros bruts par mois pour organiser ce débat et pour présider cette autorité indépendante. Face aux critiques ces dernières heures, elle invite donc les participants au débat à proposer, s'ils le souhaitent, un nouveau salaire. On saura en fin de semaine ou en début de semaine prochaine si la justice suspend les travaux de forage d'exploration que Total a entrepris au large de la Guyane depuis le 25 décembre dernier. Une demande pour suspendre ces travaux a été examinée hier après-midi par le tribunal administratif de Cergy. Elle était défendue, cette demande, par 7 associations de défense de l'environnement. Véronique Reberotte, bonjour.
Bonjour.
Vous avez assisté à cet examen. Alors où une partie de la population demande à être mieux entendue par le sommet de l'État, l'audience a tourné justement autour d'un manque de concertation.
Alors dans un premier temps, l'avocat de Greenpeace dit « avant vous faisiez ce que vous vouliez, ce temps-là est révolu », donc explique d'emblée l'avocat de l'ONG Greenpeace en s'adressant à ceux qui au tribunal défendent les intérêts de Total, ministère de l'écologie et préfecture de Cayenne compris. L'explosion de la plateforme Deepwater en 2010 dans les eaux du golfe du Mexique, à l'origine de la plus grande marée noire des États-Unis est notamment passée par là. La réglementation en matière de forage offshore en mer donc a été durcie. Elle vous oblige à regarder le diable en face, à donner des réponses en matière de sécurité à une population qui ne vous fait pas confiance, explique l'avocat de Greenpeace. Tout est en place, répond Total. Le dossier a été mené, instruit dans les règles de l'art, argument d'un représentant de la préfecture de Cayenne, sur le volet consultatif également. Les débats hier ont été agités sur ce volet justement consultatif. Enquête publique menée rapidement, en plein été, escamotée, estiment les plaignants, bâclée, quand l'envergure du projet, près de 300 millions d'euros pour 5 puits d'exploration, aurait nécessité un vrai débat public de plusieurs mois. La présidente donc du Conseil national du débat public, vous venez d'en parler, Chantal Joanneau, a elle-même estimé que ce dossier avait été mené sans respect du droit de la participation publique. Les travaux ont démarré, vous l'avez dit, le 25 décembre dernier, alors qu'ils n'auraient dû commencer qu'à la mi-janvier. Si vous les suspendez, ils ne reprendront pas, semble menacer l'avocat Total à la barre. Total qui vient de se voir refuser par le Brésil un permis d'exploration dans l'embouchure de l'Amazone, c'est à quelques kilomètres de la Guyane.
Merci Véronique Reberotte, notre spécialiste des questions environnementales. Je rappelle que la justice doit donc donner sa décision en fin de semaine ou en début de semaine prochaine à propos de ces forages.
8h11 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq, Réal dans les matins. Et dans l'actualité de ce mardi également, cet entretien téléphonique entre Donald Trump et Emmanuel Macron.
Les présidents américains et français ont discuté du retrait des troupes américaines de Syrie hier soir. Un retrait réfléchi et coordonné, déclare la Maison Blanche dans un communiqué. Il sera mené à un rythme adapté, précise Donald Trump. Alors que son conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, rencontre aujourd'hui des représentants turcs à ce propos à Ankara. Donald Trump, qui cherche toujours à obtenir du Congrès américain qu'il finance la construction d'un mur anti-migrants, augmentant un peu plus la pression, il annonce un discours à la nation ce mardi soir aux États-Unis. Il se rendra ensuite jeudi à la frontière américano-mexicaine. Il profite que les négociations avec Washington patinent pour aller voir ailleurs. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un est arrivé cette nuit en Chine sur invitation de son homologue Xi Jinping. Il s'agit du 4e sommet bilatéral entre les deux hommes. En bref, encore cette information rapportée par le Daily Telegraph. Des responsables européens et britanniques discutent en ce moment d'un éventuel report de la date officielle du Brexit. Ils craindraient de ne pas voir l'accord négocié entre Theresa May et Bruxelles adopté à temps. Le vote du Parlement britannique doit avoir lieu dans une semaine à Londres. Penchons-nous à présent sur une possible censure au théâtre. Deux jumeaux britanniques, milliardaires, veulent faire interdire une pièce française. Inspirée de leur parcours, elle s'intitule « Les deux frères et les lions ». Cette pièce a été montée il y a 6 ans à Cherbourg par Edith Yette de Clermont-Tonnerre. Après 250 représentations un peu partout en France, elle revient ce soir à Paris, mais ce pourrait être les dernières programmations car les jumeaux Barclay demandent donc l'interdiction de cette pièce ainsi qu'une amende à l'auteur de cette pièce, une amende de 100 000 euros. Ils évoquent une diffamation et une atteinte à leur vie privée, Cécile de Kervas-Doué.
Nous sommes frères jumeaux et milliardaires et nous nous entendons très bien pour gagner de l'argent.
En 50 minutes, deux comédiens en scène et beaucoup de tasses de thé, la pièce raconte l'incroyable ascension de deux jumeaux devenus les milliardaires parmi les plus riches du Royaume-Uni. Connus pour avoir acquis notamment le Ritz de Londres et le Daily Telegraph, les frères Barclay ont également été plusieurs fois éclaboussés dans la presse pour des affaires de corruption et d'évasion fiscale. Ils ont aussi acheté un bout d'île anglo-normande, sur laquelle ils ont construit un château néo-gothique rose avec mirador et caméras de sécurité. Ils détiennent 70% de l'activité économique de Cercle, l'île voisine, encore régie par le droit féodal. Et c'est ce qui clôt la pièce. Comment les jumeaux vont obtenir de la Cour européenne des droits de l'homme le moyen de protéger leur fortune? Edith Yette de Clermont-Tonnerre.
C'est une histoire shakespearienne quand même. Il y a à la fois, je dirais, une histoire en creux du capitalisme, puis ça pose la question de la déshumanisation, quoi. Comment on perd l'intérêt général pour l'intérêt personnel, voilà. Qu'est-ce qui se passe quand les puissants n'ont plus intérêt à la vertu? Oui, c'est une satire, mais c'est pas eux quelque part. Donc si on ne peut pas, à partir de faits réels, inventer une fiction qui devient une satire, je vois pas trop en quoi le théâtre peut servir.
Maniaque du secret, David Barclay, 85 ans passé, a interdit à ses avocats de s'exprimer. Il poursuit l'auteur en diffamation, notamment parce que la pièce raconte comment les jumeaux ont organisé le blocus de l'île de Cercle, empêchant ainsi le ravitaillement d'une école. Des faits connus et publics, répond Maître Olivier Maurice, l'avocat de l'auteur.
Je crois que l'objectif, en réalité, c'est d'empêcher de parler de ces milliardaires, parce que c'est susceptible d'élever une certaine forme de contestation, d'autant plus aujourd'hui.
Et lors de l'audience prévue en mai prochain à Caen, l'avocat souhaite que le milliardaire soit débouté de toutes ses demandes.
La décision de la justice n'interviendra alors pas avant cet été. Une perturbation pluvieuse traverse le pays ce mardi de la Bretagne jusqu'en Rhône-Alpes. Le ciel restera gris, à l'exception du sud-est. La minimale ce matin, elle est à Chamonix avec moins 3 degrés. Comptez 3 degrés à Besançon, 6 à Lille et Bordeaux, 8 degrés à Paris et sur la Bretagne, 9 degrés. La maximale ce matin, c'est à Nice.
Merci Clara Lecoq-Réal, 8h15 sur France Culture.